Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, vers quelle énergie allons-nous nous tourner à l'horizon 2200 ? Réaliser des projections demeure difficile, cependant nous connaissons la réalité des énergies fossiles qui s'épuisent. Notre futur entrera-t-il dans l'ère de l'écologie industrielle ? L'épuisement des ressources fossiles nous obligeant à nous tourner vers des énergies renouvelables et en premier lieu le soleil. Serons-nous dans l'obligation de consommer moins dans les décennies à venir, nous qui serons quelque 8,5 milliards d'habitants d'ici 2030-2050 ? À côté des énergies vertes, on pense bien sûr aux avancées technologiques telles que l'énergie nucléaire de fusion ou encore l'hydrogène, qui n'est pas une source mais un vecteur. Mais ces technologies seront-elles exploitables à l'échelle industrielle à moyen terme ? Diversifier nos ressources énergétiques, oui, et c'est ce que l'on fait déjà, mais que contiendra ce bouquet à l'horizon 2200 et dans quelle proportion ? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle émission Éclairage en compagnie de Michel Combarnous. Michel Combarnous, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Vous êtes docteur en sciences physiques et mécaniques, professeur émérite à l'Université Bordeaux 1, université où vous étiez d'ailleurs le président entre 1996 et 2001, professeur associé à l'Université de Gabès en Tunisie, membre fondateur de l'Académie des technologies en 2000 et correspondant de l'Académie des sciences depuis 1978. Au cours de votre communication en octobre 2009, communication à l'Académie des sciences sur les populations et leur consommation d'énergie en 2200, vous avez cité le politologue Paul Ariès qui dit « moins de bien, plus de liens ». Et permettez-moi de citer également Jacques Blamont, membre de l'Académie des sciences, qui pour sa part parle de changement radical des comportements et prône la frugalité dans notre consommation. Michel Combarnous, est-ce que la machine économique dans laquelle nous vivons peut s'inverser ?
S'inverser, sûrement pas, se réorienter, sûrement. Quand on regarde les consommations d'énergie, pour ne prendre que celle-là, mais on pourrait prendre le problème de l'eau, le problème des déchets, d'un certain nombre de matières premières, on s'aperçoit que nous sommes en face de stocks finis d'un certain nombre de choses. Pour l'eau, ça dépend tout à fait des territoires, hein, c'est pas généralisable partout, mais pour le reste, c'est assez vrai. Donc dans ce contexte-là, il est clair qu'une frugalité, je crois que l'expression est assez juste, l'expression de Paul Ariès, plus de liens et moins de biens est également tout à fait fondée, va demander des réorientations très fortes dans un monde où les écarts sont importants.
Pourquoi avez-vous cité l'horizon 2200 ? Pourquoi 2200 ?
Ce n'était pas une façon de se prendre ni pour Jules Verne, ni pour Nostradamus. C'était une façon de se débarrasser des discussions qui sont souvent très compliquées et qui, à mon avis, obscurcissent l'horizon des réflexions prospectives de l'avenir du pétrole et du gaz. En 2200, on peut penser qu'en ce qui concerne le pétrole et le gaz, on aura vraiment terminé à peu près, ou du moins à peu près. Le charbon, c'est une autre paire de manches. Et donc, de ce fait, on s'affranchit de cette logique-là. On dit, bon, plus de charbon, plus de pétrole, plus de gaz, à quoi on joue ?
Pourquoi avoir cité les consommations implicites et les consommations explicites ? Explicites, je pense que ça fait référence au pétrole, au charbon et au gaz que vous venez de citer, mais qu'est-ce que les consommations implicites ?
Oui, alors ça c'est une idée qui me tient beaucoup à cœur, que j'ai développée depuis pas mal d'années. Bon, l'explicite, comme vous l'avez dit, c'est effectivement les trois grands fossiles, hein, charbon, pétrole et gaz, c'est l'hydraulique, c'est l'électricité nucléaire, c'est le bois énergie, c'est des choses qu'on peut mesurer assez globalement, et c'est qu'en général, c'est là-dessus qu'on fait des statistiques mondiales. L'implicite, ben, c'est toute l'énergie que nous consommons, qui est en général d'origine solaire. Si vous mangez un haricot au mouton, pour rester un peu sud-ouest, vous mangez les haricots qui ont poussé avec du soleil, le mouton a mangé de l'herbe, donc vous mangez de l'énergie solaire, vous consommez de l'énergie solaire. Si vous séchez des choses, et le séchage est une activité qui consomme énormément d'énergie, eh bien, là aussi, en général, ben, nos paysans sèchent toujours le foin au soleil, et ils ont raison, et c'est une consommation d'énergie qu'on peut appeler implicite, en quelque sorte.
Une consommation qui ne sera pas gênée dans les décennies à venir, puisque
voilà.
J'imagine
non, celle-là, elle est tout à fait naturelle.
Par définition, voilà, renouvelable.
C'est pour ça qu'on voit des industriels, je prends les phosphates en Tunisie par exemple, qui ont abandonné le séchage du phosphate dans des tunnels qui brûlent du fioul pour le faire en plein air, dans des endroits où les pluies sont assez rares, et qui retournent le phosphate avec des scrapeurs, comme on retournait le foin avec des fourches.
Lors de votre communication, vous avez donné bien sûr des chiffres, et vous avez expliqué que, bizarrement, notre consommation de pétrole, ou en tout cas d'énergie fossile, était en train de se stabiliser. Alors qu'on imagine, on se doute, qu'avec les développements des communications, les avions et tout ce qui s'ensuit, il y a certainement une multiplication de la consommation du pétrole.
Alors, il y a deux choses. Vous avez raison de noter le fait que cette consommation moyenne par tête d'habitant reste à peu près constante, à des tas de nuances près, depuis le premier choc pétrolier. Ça, c'est un effet de moyenne qui demande à être un peu expliqué. C'est pour ça que lors de la conférence, j'ai fait un petit exercice. Puisque finalement, les gens qui consomment peu sont de plus en plus nombreux et donc ils peuvent consommer un tout petit peu plus par individu et il se trouve que la moyenne reste constante. Deuxième élément, et qui est très important, dès lors qu'on fait des économies d'énergie, on gagne. On gagne sur les consommations des voitures, on gagne sur l'habitat, on gagne sur l'industrie. Donc chaque fois, on fait des progrès sur les matériaux, sur les procédés qui font qu'on consomme moins d'énergie pour une opération unitaire.
Même si nous allons être de plus en plus nombreux sur Terre ?
Alors là, j'ai parlé de consommation individuelle. Donc évidemment, nous sommes 6 milliards, 9 ou quelque chose comme ça. Les prospectives donnent 9, 10 milliards. Il faut assurer cette consommation à la proportionnelle. Donc on consommera plus d'énergie si on garde cette moyenne, ce qui est déjà relativement optimiste. Dans un contexte difficile, avec beaucoup d'inégalités, et j'évoquais avec quelques collègues après la réunion, je regrettais qu'on n'ait pas rappelé qu'il y a 1 milliard de gens qui sont plus pas bien sur cette planète et en gros crèvent de faim, pour être clair, quoi.
Donc, bien sûr, le charbon, pétrole et gaz qu'on retrouve toujours en peloton de tête, j'imagine qu'au fur et à mesure des années, notamment donc 2200, pour donner une échéance, le pétrole va arriver en peloton de fin, pour le coup.
Alors voilà, l'intérêt de 2200, c'est que d'ailleurs personne n'a contesté ça lors de cette présentation. On peut dire pétrole et gaz, il n'y en a plus. Bon, c'est caricatural, mais c'est comme ça. Alors à quoi on joue ? Et sachant que comme on sera un peu plus nombreux, si on est une dizaine de milliards par rapport à 7, il faudra consommer au moins 12 à 15 milliards de tonnes d'équivalent pétrole. Et comment on les trouve, sachant quand même que ce pétrole et le gaz constituent les deux tiers de la consommation actuelle d'énergie. Donc comment on va s'organiser ?
Et notamment pour le transport ?
Pour le transport, mais les consommations d'énergie, elles sont sur trois grands champs. Hein. L'habitat, les habitats, enfin, au sens bureau, résidentiel, etc. Les transports et puis l'industrie, la fabrication de choses. Les transports, ça sera résolu probablement par une question de vecteur énergétique. Quand vous dites une voiture électrique, par exemple, l'électricité, qu'est-ce que vous avez une batterie ? Vous pouvez avoir des biocarburants, vous pouvez avoir toute une série de choses, de l'hydrogène. Donc c'est sûr que pour le transport, il faudra changer de vecteur énergétique, puisqu'on n'aura plus ce pétrole et ce gaz. Ou même faire du pétrole ou des essences de synthèse, hein, à partir du charbon ou autre chose comme ça.
Le pétrole, justement, vous donnez l'échéance 2050, hein, tout le monde le dit, tout en précisant que ça ne prenait pas en compte les
sables bitumineux.
Les sables bitumineux, oui. Voilà, je cherchais le terme, sables bitumineux, qui se retrouvent, j'imagine, je crois, au nord du Canada.
On en a beaucoup, ils sont déjà très fortement exploités, c'est assez polluant comme industrie. Au nord de la Tabasca, dans la Tabasca. Mais il y en a dans d'autres sites, hein. Il y en a au Venezuela, etc. Le sable bitumineux, c'est quelque chose qui est assez simple à imaginer. Vous prenez du pétrole, vous mélangez avec du sable, ce que vous avez au bord de plage de temps en temps. Et il faut séparer tout ça. Alors évidemment, il faut remuer beaucoup de sable, puisque le sable, c'est quand même lourd, c'est des cailloux. Hein. Et c'est du quartz, en général, le plus dense des éléments. Mais on peut y arriver, c'est relativement rentable. Et c'est à ne pas confondre avec ce qu'on appelle aussi les schistes bitumineux, qui sont autre chose. Les schistes bitumineux, c'est des matières argileuses qui contiennent du pétrole. Et je prends souvent l'image de dire, vous prenez la pâte à modeler, vous mettez du pétrole, vous touillez, vous faites cuire comme les petits-enfants font des jeux à la maternelle. Et puis vous avez une espèce de brique avec des irisations de pétrole. Et sortir le pétrole de là, au point de vue énergétique, ça risque de vous consommer plus d'énergie que ce que vous récupérez. Donc les schistes bitumineux, attention, ne rêvons pas trop. Les sables, oui.
Les sables, malgré, je pense, le coût de
malgré
la production.
Le coût. Mais si le coût est fort, ça devient intéressant.
Et ça deviendra toujours plus intéressant.
Parce qu'il faut moins d'énergie, de toute façon, pour faire l'opération dont je vous parlais. La démixion, faire fondre ce pétrole qui est très visqueux, etc. Séparer les grains de sable du pétrole, etc. Il faut moins d'énergie pour ça que ce qu'on va récupérer. Par contre, c'est une opération qui peut être coûteuse. Donc c'est vrai que le coût du pétrole dedans joue un rôle important.
Sans être Nostradamus, hein, que vous citiez il y a quelques instants, vous donniez quelques pourcentages pour donner une idée donc à l'horizon 2200 de la répartition de ces bouquets énergétiques. Le charbon va bien sûr monter en tête et représenter l'équivalent de 25% de nos consommations d'énergie.
Moi, j'ai pas voulu avancer. On pourra se poser le même genre de questions sur le nucléaire, etc. Mmh. Premier réflexe, les contraintes sont telles qu'il faut faire feu de tout bois. Ouais, ça, c'est clair. Donc, il ne s'agit plus de savoir si l'éolien va l'emporter sur le nucléaire, s'il faut arrêter tout le nucléaire pour faire je ne sais pas quoi. C'est un sujet qui peut être intéressant, mais qui n'est pas du tout dans mes préoccupations. Donc, mes préoccupations, c'est un bouquet aussi riche que possible, avec des parts un peu partout. Et c'est vrai que dans tous ces petits pétales de marguerite, le charbon reste quand même un élément très important, à condition, bien entendu, qu'on le gère. C'est le problème dit du charbon propre. C'est-à-dire qu'on arrive à transformer ce charbon en l'utilisant correctement, par exemple en le brûlant pour faire de l'électricité et en injectant tout de suite le CO2 dans le sous-sol, sur place même, hein, puisque ce n'est pas forcément un projet farfelu, et il a été d'ailleurs évoqué récemment souvent, et puis d'autres techniques, y compris le carburant à partir de charbon que j'évoquais.
Le nucléaire, vous en parliez à l'instant. Oui. Le nucléaire, bizarrement, ça semble se stabiliser. En tout cas, c'est les projections que vous en faites.
Oui, alors le nucléaire, ça se stabilise. Je ne suis pas particulièrement anti-nucléaire, mais je ne suis pas malheureux de voir que ça se stabilise.
Malgré le synchrotron, par exemple, à Gif-sur-Yvette,
Twitter,
dont on parle beaucoup.
Déjà, ça se stabilise parce que c'est quand même une industrie qui est compliquée, avec des problèmes de sûreté qui ne sont pas négligeables, des problèmes de stockage qui, quoi qu'on dise, ne sont pas parfaitement résolus quand on voit les échelles de temps très grandes. Deuxième problème, toujours le nucléaire, en parlant fission toujours, il y a les stocks d'uranium dont on ne parle jamais. Je parlais des stocks de matériaux, c'est pareil. Bon, on peut faire de la fission avec autre chose que l'uranium. Hein, donc ça, c'est un problème qui reste quand même posé un petit peu.
Mais pour la fusion.
Et la fusion. Alors la fusion, le raisonnement que je fais, il est assez simple. On ne le faisait pas il y a 10 ans. Maintenant, tout le monde le dit un peu, donc ça ne veut pas dire qu'on a raison. Mais on parle d'ITER, par exemple. C'est un très joli projet. ITER, c'est une manip qui va durer 25-30 ans. ITER ne produira pas d'électrons comme on en verra sur notre fer à repasser.
Pas à l'échelle industrielle.
Donc il faudra en faire une somme, moi j'appelle ça ITER 2, mais pour appeler ça comme ça. Donc il faudra encore mettre 30 ans. Et puis au bout de 30 ans, ben, on aura peut-être des électrons qu'on mettra dans notre fer à repasser, comme je le disais. Et quand on voit la montée en puissance du nucléaire fission, on se dit qu'il faut encore rajouter 30 ans. Donc ça fait déjà 100 ans. Donc on n'est pas en 2200, mais on est quand même pas loin. Donc si la fusion marche, et pourquoi pas, effectivement, ça ne sera qu'un pétale de cette fleur ou une fleur de ce bouquet.
L'énergie hydraulique, les barrages par exemple, vont-ils pouvoir encore se développer tout en sachant je crois qu'en France, on a fait le maximum.
Alors en France, on a un maximum, mais ça m'amène d'ailleurs à un sujet qui a été évoqué aussi dans ces échanges récents. D'abord, il y a la pérennité des barrages, l'entretien des barrages, l'âge des barrages, etc. Bon. Un barrage, ça occupe beaucoup de place, hein, puisqu'il faut prendre une grande surface de bassin versant pour récupérer de l'eau, pour l'accumuler. Donc, je pense que l'hydraulique devrait se développer dans certains territoires. On a tous en exemple quelques barrages africains qui font 400 mégawatts et qui servent à alimenter une lampe de 20 watts parce que les gens ne s'entendent pas pour le gérer. C'est aussi un autre problème. L'énergie, c'est bien gentil, mais si les gens s'entretuent, on est quand même pas on est un peu dans la panade, si j'ose m'exprimer ainsi. Et donc, je crois que les barrages peuvent se développer encore. Ce n'est pas la panacée. Et n'oublions pas qu'un barrage, ça retient de l'eau, mais ça retient autre chose. Hein, le bilan du barrage d'Assouan, par exemple, est très clair. Si vous retenez des nutriments, les plaines du Nil ne sont pas inondées. Et à ce moment-là, vous mettez des engrais. Bilan énergétique, ça se discute.
Et avec aussi les conséquences écologiques, je pense par exemple au barrage des Trois Gorges en Chine.
Exactement. Barrage des Trois Gorges, mais tous les barrages. Mais même, prenons un exemple plus près de chez nous, prenons le cadmium qui est dans la Gironde, qui vient des mines de Decazeville et qui est stocké par des barrages. Donc quand on dit on va nettoyer un barrage déstocké, on envoie du cadmium en grande quantité dans une rivière et tous les poissons passent sur le dos et on s'étonne pourquoi, quoi.
La biomasse, vous dites qu'elle pourrait représenter 13% de nos consommations à l'horizon 2200. Biomasse, j'imagine que ça prend aussi en compte les fameux biocarburants dont on parle.
Bon, les biocarburants, pour l'instant, ça reste assez...
De seconde génération, j'imagine,
un d'ici là. Ouais, de deuxième, même sûrement plus loin, parce que sur en 2200, les choses vont changer. Je crois qu'il faut faire attention à une chose, c'est que ce carbone, pour ne parler que de lui, que ce soit sous forme CO2 quand c'est dans l'atmosphère, il participe d'un immense cycle. Hein, qu'on voit très bien quand on regarde l'évolution des forêts, etc. Et donc, on a ce cycle important. Il faut le prélever du carbone dessus sans perturber complètement l'ensemble du dispositif. Hein, je cite souvent en boutade cette phrase-là. Quand nous étions à l'époque de la cueillette, Adam et Ève mangeaient une pomme. Bon, ça ne devait pas changer grand-chose au système. Si vous ramassez les pommes, toutes les pommes de votre pommier, toutes les années, mais il faudra mettre des nutriments dans le sol parce qu'il n'y aura pas ce cycle dont je parle, sera un peu perturbé. Donc la biomasse, évidemment, est utilisée dans beaucoup de pays. C'était le chauffage, c'était le bois. c'est, je le dis souvent, la bouche de yak qui sert à la fois de matériau de construction et de combustible. Mais on ne peut pas l'exploiter complètement en permanence en imaginant qu'on va tout transformer en CO2, il nous manquera quelque chose.
Autre possibilité, la géothermie. On en parle beaucoup, notamment avec les pompes à chaleur. Et on cite parfois l'Islande et ses geysers qui, là, sont une source incroyable d'énergie. Est-ce que ça, c'est aussi amené à se développer ou au contraire, on pourra le développer, mais ça ne représentera pas forcément quelque chose de majeur au niveau des énergies?
Alors, feu de tout bois, donc géothermie, oui. En plus, c'est un des sujets sur lesquels j'ai pas mal travaillé, ce qui n'est pas une référence, mais qui donne une certaine affection pour cette discipline-là. Quand on a la chance d'avoir, c'est le cas de l'Arderello en Italie, la possibilité de production de vapeur à très haute température et pression, on peut fabriquer de l'électricité. Bon, il y a quelques centrales où on fabrique de l'électricité avec de la géothermie thermique. Et dans d'autres cas, il s'agit plutôt davantage d'exploiter de l'eau chaude qui existe. Il faut faire attention en disant que l'énergie géothermique est complètement renouvelable, parce que si vous prenez la région parisienne, on utilise beaucoup la géothermie pour le chauffage des immeubles collectifs, l'eau étant très fortement salée, on la pompe, elle réchauffe de l'eau qui circulera dans les radiateurs, et cette eau primaire, en quelque sorte, pour prendre la référence comme dans un réacteur nucléaire, on la réinjecte dans le sol, et on la réinjecte froide. Donc il faut que les deux puits d'injection soient relativement distants l'un de l'autre, sinon votre eau froide elle va se précipiter sur votre puits d'eau chaude, et votre énergie, ce n'est pas si renouvelable que cela. Donc il y a toute une série de réflexions à mener, mais c'est un espace important, indépendamment de la référence que vous faisiez à l'utilisation du sous-sol avec des pompes à chaleur.
Citons aussi le photovoltaïque. Lors de votre conférence le 6 octobre à l'Académie des sciences, vous parliez donc du photovoltaïque, notamment un exemple au Nevada avec ces immenses plaques photovoltaïques qui seraient également.
Alors, il y a à la fois des plaques photovoltaïques, d'énergie. Vous l'avez bien vu, mais il y a aussi autre chose. Dans le photovoltaïque, il y a, dans le solaire qu'on appelle le solaire classique, il y a trois choses. Bon, d'abord, il y a les panneaux de production d'eau chaude qu'on commence à voir dans certains pays. Israël en est complètement couvert, on commence à en couvrir en Tunisie, en Turquie, en Grèce, etc. Donc là, on fabrique de l'eau chaude. Bon, ça marche très bien, c'est une température, c'est bon. Puis après, il y a les panneaux photovoltaïques qui fabriquent de l'électricité. Et puis, quand je citais les exemples du Nevada, il y avait certes des panneaux photovoltaïques, mais il y avait aussi ce qu'on appelle le solaire thermodynamique, où là, à ce moment-là, on capte l'énergie solaire en la concentrant un petit peu avec ces capteurs qu'on appelle cylindro-paraboliques. On imagine à quoi ça ressemble, comme une tuile, finalement, orientée vers le soleil. On fait converger les rayons du soleil sur l'axe de cette espèce de tuile. Et là, on chauffe des fluides caloporteurs excessivement à très haute température qui vont passer leur énergie à de l'eau. Et cette eau, on peut aussi la vaporiser, la turbiner, faire l'électricité. Donc ça, il y a effectivement des grandes installations en Californie, mais il y en a ailleurs. Nos amis allemands en fabriquent, avec les gens du Maghreb, ont des projets de ce genre. Et on a déjà des installations qui tournent, qui font 100 mégawatts quand même. Donc 100 mégawatts, c'est un dixième d'une tranche d'énergie quelconque, d'une centrale thermique, d'un petit réacteur nucléaire, etc.
Donc dans les pays très ensoleillés, ça reste une solution.
Voilà. Alors,
des solutions.
La constatation, c'est que les pays très ensoleillés ne sont pas toujours les pays les plus peuplés. Mais l'électricité, ça se transporte beaucoup mieux qu'on ne croit, donc pas forcément un problème.
Parlons de l'éolienne, énergie éolienne. Vous disiez que peut-être l'avenir des éoliennes était en mer.
On le voit bien en France, tout le monde veut de l'énergie, mais personne ne la veut chez soi, c'est clair. Donc on vous explique que les éoliennes, ça traumatise certaines chauves-souris, ce qui est vrai d'ailleurs. Les petites perturbations de pression, que ça gêne les oiseaux, que ça fait un peu de bruit, etc., etc.
Et vous êtes un peu critique là-dessus?
Bon, je suis critique sur les comportements de nos concitoyens qui veulent à la fois le beurre et l'argent du beurre, mais c'est l'espèce humaine, on est tous un peu comme ça. Je ne suis pas exempt de critique à cet égard, comme les autres. Donc les éoliennes, on a, en plus, il y a un problème important, c'est que quand on est à terre, on a souvent des espaces où les vents sont relativement irréguliers, etc. etc. Donc, pollution, on va dire, visuelle, etc. Puisque bon, les grandes pollutions, c'est quoi? C'est les clochers d'église, les minarets de mosquées, les antennes de radio et les châteaux d'eau. Pour l'instant, c'est à peu près ça qu'on voit dans le monde. Donc, rajouter des éoliennes, bon, ça traumatise les moulins à vent, dans le temps, étaient plus petits. Et rajouter des éoliennes, c'est un peu compliqué. Alors, avec l'effet de vent dont je parlais, les grands projets, les projets massifs, sont soit dans des espèces de déserts qui n'intéressent personne, soit plus souvent en mer, carrément. Et donc, à ce moment-là, étant entendu qu'en mer, on a souvent un certain nombre de zones où les vents sont relativement plus réguliers qu'on ne croit, ce qui permet d'avoir une production moins intermittente, puisque c'est un des problèmes de l'éolien.
Alors voilà, justement, c'est le thème sur lequel je voulais vous faire parler. Toutes ces énergies, en tout cas une grande partie de ces énergies, sont intermittentes. Et comme on était sur les éoliennes, poursuivons sur les éoliennes, une partie des détracteurs des éoliennes disent que, et c'est le cas, quand vous mettez une éolienne, il faut qu'elle soit rattachée à une centrale à charbon. Donc finalement, l'effet carbone qui doit être diminué parce que l'énergie est renouvelable et verte par l'éolienne se retrouve diminué, voire même nul, avec la centrale à charbon qui fonctionne à côté.
Oui, alors ça c'est, comme beaucoup de gens, j'ai un grand-père qui a dû passer son temps à se battre contre les Allemands. Donc c'est un peu la critique qu'on fait à l'Allemagne, parce que les Allemands, on passe à dire qu'ils aiment les éoliennes, mais enfin avec leur lignite dans le temps et leur charbon, ils polluent tout ce qu'on peut imaginer. Je crois que c'est un peu caricatural. C'est clair que les productions d'éoliennes sont intermittentes, mais c'est clair aussi déjà que nos consommations sont intermittentes. Hein, quand le fête de Noël, tout le monde va sur les Champs-Élysées pour festoyer, on consomme beaucoup plus. Les pics de consommation en France sont toujours à ces moments-là. Et donc, il faut assurer ces pics de consommation qu'on utilise avec des turbines à gaz, enfin, toute une série d'astuces pour produire les électrons dont la population a besoin. Alors, la production intermittente à mettre sur le réseau, ce n'est pas la même chose que la consommation intermittente. Il y a plein de subtilités de ce genre. Je crois que c'est une autre façon de poser le problème du stockage d'énergie, finalement. L'électricité ne se stocke pas. Et donc, comment peut-on la stocker ? Ça reste un peu ce problème-là.
Et c'est une des questions que vous avez posées à un des académiciens après votre conférence.
Exact, oui.
Savoir comment pouvait-on faire pour stocker ces énergies ? Est-ce que l'avenir, finalement, au niveau des avancées technologiques, n'était pas la question du stockage ?
Alors, c'est un peu vrai parce que si on a soit du photovoltaïque massif et les progrès du photovoltaïque, les cellules photovoltaïques sont très importants, on en voit à peu près partout hein, maintenant, et pas uniquement parce que c'est soutenu par EDF, ça c'est la version française, mais dans tous les pays du monde, il y en a énormément. Le solaire thermodynamique dont nous parlions tout à l'heure avec les capteurs cylindro paraboliques, tout ça, ça donne l'électricité. Alors l'électricité, c'est très intéressant, ça permet de faire énormément de choses, mais ça ne se stocke pas. Donc on peut se dire, bon, la première chose, c'est l'idée naïve qu'on avait dans le temps, on va dire, on va remonter de l'eau dans les barrages, et puis finalement, quand on a trop d'électricité, ben, on fait marcher les turbines à l'envers, elles servent de pompe à eau, elles remontent l'eau dans les lacs de montagne. C'est très intéressant, mais il faut évidemment avoir de l'eau en bas. Et après un barrage, en bas d'une turbine, en général, l'eau elle va à la rivière, elle descend toute seule, elle n'attend pas qu'on veuille bien la repomper. Alors il y a des travaux de stockage chimique. Très important, où on se dit, après tout, il y avait des sels fondus, plutôt une série de choses, ou des hydrates, enfin, il y a plein de choses de ce genre. On peut stocker sous forme chimique cette électricité. On peut aussi imaginer, dans des cas plus simples, qu'on va la produire et qu'on va, avec cet excédent, quand on en aura un peu d'excédent, on distillera par exemple de l'eau, et puis on gardera l'eau sous forme eau douce parce qu'elle servira pour de l'arrosage. On peut aussi se dire, après tout, l'électrolyse de l'eau, c'est connu par tout le monde. On va fabriquer de l'hydrogène et puis on stockera de l'hydrogène. Donc, en quelque sorte, on lisserait la consommation d'électricité. Chaque fois qu'on a un petit excédent d'électrons, on fabriquerait des choses qu'on peut stocker tranquillement. C'est ça la démarche et je crois qu'effectivement, elle doit se développer.
Alors, notre futur sera-t-il plus vert ? Parce qu'en vous écoutant, une grande partie de nos énergies, une grande partie découlera de l'énergie solaire, du soleil.
Alors de toute façon, c'est clair. Ça, c'est... Si on n'a pas de fossiles, on a du renouvelable. Il n'y a pas de transition de solution. Donc à partir du moment où le charbon et le pétrole, le gaz disparaissent et le charbon diminue en poids, forcément on a du renouvelable. Et l'éolien, c'est du renouvelable. Tout ça, c'est du soleil. Hein. Donc la quantité de soleil qu'on reçoit sur la tête par habitant est considérable par rapport à ce qu'on consomme. Là, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de crainte de perturbation du flux solaire arrivant sur la Terre par cet effet-là. Donc tout sera effectivement plus vert. Alors après, je crois qu'il ne faut pas ramener les choses uniquement à des problèmes d'énergie. Je ne dis pas que je rejoindrai Jacques Blamont là-dessus. Mais c'est vrai que si c'est avoir beaucoup d'énergie pour faire beaucoup de guerres, si c'est pour s'entretuer pour je ne sais trop quoi, il y a plein d'autres problèmes qui sont consommateurs d'énergie. Et ce n'est pas en roulant uniquement avec un vélo libre sur les boulevards parisiens qu'on va sauver la planète. Il y a d'autres problèmes.
Vous avez cité Paul Crutzen, qui est un prix Nobel de chimie, qui parle d'anthropocène. Après l'Holocène, on aurait l'anthropocène. Alors, vu que notre futur pourrait être, par la force des choses, plus vert, entre guillemets, est-ce que le terme d'anthropocène est valable ? C'est-à-dire utiliser les énergies fossiles au maximum.
Je crois qu'il reste valable, parce qu'en gros, ce que disait Crutzen, c'était qu'il ne faisait pas uniquement référence aux combustibles fossiles. Il faisait référence au fait que l'homme s'est fortement développé sur la planète. Je rappelais lors de la conférence à laquelle vous faisiez allusion que le grand-père du grand-père de notre auditeur ou la grand-mère du grand-père avait choisi les aïeuls qu'il aime bien ou dont il a entendu parler, ne serait-ce que par ses grands-parents, pour le grand-père du grand-père, sont nés dans un monde où il y avait moins d'un milliard d'habitants. Donc on est dans, visiblement, les choses ont changé considérablement en 4 générations. Donc dans ce contexte-là, c'est clair que l'homme a modifié fortement, non la Terre, les géologues n'aimeraient pas cette expression-là, mais la surface terrestre, c'est-à-dire les océans, la surface terrestre sur laquelle on vit, l'atmosphère, ce que j'appelle le système surface terrestre-atmosphère. Donc cette perturbation, on pourrait appeler ça l'anthropocène.
Et ces questions-là que l'on aborde tous les deux ensemble et qui sont aussi posées lors de différentes communications de l'Académie des sciences, sont-elles des préoccupations uniquement de pays, on va dire, pays du Nord, pays développés? Est-ce que la problématique est la même pour les pays en voie de développement?
Alors, elle est la même d'une manière différente. Si je prends, puisque je passe quand même une grande partie de mon temps en Tunisie depuis plusieurs années, sur l'énergie, on a ce problème-là. La consommation par habitant, c'est à peu près la même que la Chine. Donc, c'est 0,7 tonnes d'équivalent pétrole par habitant en Tunisie. Mais dans l'énergie, et encore plus dans l'eau, on a des problèmes tout à fait identiques. La Tunisie, c'est de savoir est-ce qu'on va arroser, comme je le dis très brutalement, les palmiers ou les Allemands, en disant aux touristes. On a des problèmes de gestion de ressources en eau que tout le monde voit dès maintenant. Alors évidemment, la Tunisie, c'est un pays de 10 millions d'habitants. C'est plus facile à imaginer qu'un pays de 40 millions d'habitants ou 50 millions dans des conditions plus compliquées. Je pense à un certain nombre de territoires d'Afrique qui sont dans des situations très compliquées. Mais je crois que c'est une préoccupation qui diffuse beaucoup. Et on peut espérer qu'un certain nombre d'égoïsmes s'infléchissent un tout petit peu en faveur de l'intérêt général.
Terminons sur les 3 mots-clés sur lesquels vous avez terminé au cours de votre conférence. Vous parlez de l'importance de l'alimentation, de la santé et de l'éducation. En quoi ces 3 termes vont-ils être importants dans ce domaine-là de l'énergie à l'horizon 2200?
Je crois qu'ils sont importants dans l'énergie, dans tous les problèmes d'écologie générale qu'on peut rencontrer. La santé, parce que, bon, d'abord, en dehors du fait que les souffrances individuelles sont inacceptables, on peut constater qu'il y a corrélation entre la bonne santé, en particulier, je pense aux petits-enfants, et une certaine stabilisation de la population. Mais beaucoup de gens discutent là-dessus à l'infini, mais expérimentalement, on constate ça. C'est-à-dire que finalement, la mortalité infantile, quand elle est réduite, ça conduit à avoir moins d'enfants. Bon, c'est une première observation. Donc, après tout, sans être malthusien, ce n'est pas forcément déraisonnable. L'alimentation, on ne peut pas ce milliard de gens qui crèvent de faim, même si on peut se consoler en disant c'est toujours 1 milliard alors que la population croît, c'est quand même 1 milliard. Donc c'est quand même pas inacceptable. Et puis l'éducation, c'est un peu à la fois un défaut universitaire et un défaut optimiste. Je crois qu'on aura des progrès parce qu'on convaincra les gens. Je dirais à la limite, parfois, je dis qu'il faut prêcher l'écologie comme il faut prêcher d'autres choses. Et je crois que c'est par l'éducation générale qu'on progressera.
Merci Michel Combarnous de nous avoir donné ces explications sur ce sujet toujours très intéressant qui préoccupe beaucoup de nos auditeurs sur les énergies et quel horizon on a d'ici 2200. Merci, puis je l'espère à bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.
Merci à vous.